On entend présentement l'impromptu Opus 90 qui est de Schubert, et c'est une des pièces qui sera présentée dans un spectacle demain à la salle Le Bourgis. On reçoit alors le pianiste néerlandais Ronald Brautigam qui nous transportera donc dans l'intimité de Franz Schubert grâce à un instrument tout à fait particulier. Puis pour en parler, donc, on reçoit Olivier Godin, Olivier Godin, directeur artistique de la salle Bourgis, pour discuter donc de la venue de ce monument du clavier. Olivier Godin, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour, parlez-nous donc de Ronald Brautigam. C'est une figure incontournable, hein, je crois bien, de la scène internationale.
Oui, Ronald Brautigam, c'est un pianiste et un pianofortiste, donc il joue du piano moderne et du pianoforte ancien, ce qui est assez rare dans le milieu musical. Il n'y en a pas beaucoup qui font les deux. Et je dirais aussi, bon, c'est un musicien qui a plus besoin de faire ses preuves. Il joue partout en Europe, en Amérique. Il s'est produit avec de nombreux orchestres, de nombreux grands chefs comme Charles Dutoit, Ricardo Chailly, Van Fischer, tout ça. Mais c'est aussi probablement un des pianistes les plus éclectiques de sa génération, parce qu'il joue des œuvres de l'époque de Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, mais il va jusqu'à Debussy, Ravel, Poulenc, le 20e siècle. Donc, il y a un répertoire immense, et c'est tout ce qu'il fait, à mon avis, est formidable. Vraiment, c'est quelque chose d'assez rare.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est formidable? Il a une approche particulière?
Son approche est très axée sur le message musical des œuvres et sur la façon de jouer comme on devait probablement entendre à l'époque, particulièrement sur le pianoforte. C'est merveilleux d'avoir des instruments anciens comme ça, puis des gens qui en jouent, parce qu'on peut entendre des œuvres avec les mêmes sonorités que Beethoven entendait, que Mozart entendait, parce qu'évidemment, le piano a tellement évolué depuis cette époque-là. Quand on rejoue sur des instruments de cette époque-là, c'est pas du tout la même sonorité, c'est pas du tout la même façon d'approcher le clavier, d'approcher la musique. Et Ronald Brautigam fait vraiment ce travail-là en profondeur. Donc, on a toujours l'impression d'avoir quelque chose d'historique quand on l'écoute.
Alors, permettez-moi, je pense que c'est le temps de poser la question, qu'est-ce qu'un pianoforte?
Alors, un pianoforte, c'est une très bonne question. C'est l'ancêtre du piano, en fait. C'est ce qui a suivi le clavecin, donc à la fin du 18e siècle, vers le milieu fin du 18e siècle, le clavecin a peu à peu été remplacé ou supplanté, si on veut, par le pianoforte, qui était le premier instrument où les cordes étaient frappées et non pincé. Le clavecin, les cordes étaient pincées par des petits plectres, des petits sautereaux, et le piano, donc, est devenu, avec les marteaux, c'est devenu un instrument un peu révolutionnaire qui a changé complètement la façon d'écrire de la musique pour le clavier. Et éventuellement, ce pianoforte-là est devenu un piano moderne. Mais le pianoforte, donc, c'est un instrument qui est beaucoup plus petit, le clavier est plus court aussi, il y a moins de notes qu'un piano moderne. Ça dépend des instruments. Là, il n'y a pas un nombre de touches tout à fait standard comme aujourd'hui. On en a 88, donc ça peut aller de 70 à 80 à peu près. Et ce sont des instruments donc qui sont beaucoup plus petits, un petit peu plus fragiles aussi, je dirais, au niveau de la facture. Ils sont tout en bois. C'est pas des instruments où il y avait un cadre en métal comme dans les grands piano moderne, ce qui fait que le son est beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé. On peut faire vraiment des nuances très particulières. Puis il y a des pédales aussi sur ces pianos-là qu'on appelle des modérateurs, qui permettent d'obtenir des différents sons. Il y a un feutre qui se met entre la corde et le marteau pour jouer très doux, très feutré, très délicat. Donc on a toutes sortes de palettes qui sont disparues avec le temps, mais qui étaient très particulières à cette époque-là. Et à la salle Bourgis, bien, on a une collection d'instruments historiques. Donc, on a des pianofortés, on a des pianos un petit peu plus tardifs de 1859, on a des clavecins, on a des pianos modernes aussi. Donc là, pour le cas de Schubert, M. Brautigam va jouer sur un piano, une copie moderne d'un piano des années 1820 environ, donc parfaitement adapté, parce que les impromptus de Schubert datent de 1827. C'est probablement sur un instrument comme celui-là que Schubert aura composé ces œuvres-là.
Qu'est-ce qui fait qu'on entend... Parce qu'on connaît le clavecin, ça arrive souvent d'avoir des clavecins lorsqu'on va voir des concerts, mais le pianoforte, j'avoue, là, que c'est une des rares fois que j'en entends parler.
Ben, on en entend parler de plus en plus parce qu'il y a toute cette recherche d'historicité au niveau musical de rejouer sur des instruments anciens. On l'a fait beaucoup dans les années 70-80 sur le clavecin, les instruments baroques, l'époque ancienne de Bach, de Vivaldi et tout ça. Et là, tranquillement, on remonte dans le temps, on avance un petit peu dans le temps. Là, on est encore plus plus en profondeur dans la période classique, le début de l'époque romantique aussi. Et de plus en plus, on joue ce répertoire-là sur les instruments de cette époque-là. Il faut dire que le piano forte a quand même eu une longévité, là, je dirais, la fin du 18e siècle, jusque dans les années 1850, où le facteur de piano français Erard a inventé le piano moderne, ce qu'on peut dire, là, plutôt plus vers à partir des années 1850 et jusqu'à la fin du 19e siècle. Là, le piano moderne a eu son heure de gloire et a supplanté le piano forte. Mais ça a été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands compositeurs avaient ces pianos-là. On pense à Beethoven, on parle à Schubert, même Chopin, dans ses jeunes années, c'était des pianos fortés comme celui qu'on va entendre demain. Schumann, Mendelssohn ont commencé à composer pour le clavier. C'était des instruments comme celui qu'on a à la salle Bourget, là, qui couvre les années 1820 à 1840 environ. Le piano forte, c'est évidemment a évolué à une vitesse incroyable parce que en 100 ans, on est passé d'un clavecin à presque un piano moderne. C'est extraordinaire le chemin que ça a fait au niveau artistique, au niveau musical. Et c'est aussi important de voir que c'est l'invention de ces instruments-là qui a fait avancer la composition. Parce que, par exemple, Beethoven, au début de sa carrière, ne pouvait pas écrire des œuvres comme il écrivait, aussi puissantes qu'il écrivait à la fin de sa vie, parce que les pianos ne pouvaient pas le prendre. Les pianos n'étaient pas conçus pour composer, pour écrire ou pour jouer de la musique aussi dense que les dernières sonates de Beethoven. Et quand le piano forte a évolué, bien, Beethoven était très, très heureux parce qu'il pouvait justement avoir un instrument qui pouvait prendre la force puis la puissance et l'étendue de ces grandes dernières œuvres.
J'aimerais vous amener sur le programme de demain, justement, qui est centré sur ces célèbres impromptus de Schubert. Pourquoi ces pièces-là occupent toujours une place aussi spéciale dans le cœur des mélomanes?
Je pense que ça fait partie des grandes, grandes œuvres de Schubert. Schubert, faut penser d'abord une chose, il est mort très jeune, il est né en 1797, il est mort en 1828. Il a écrit à peu près 2000 œuvres entre l'âge de 15 ans et l'âge de 31 ans. Ça veut dire qu'en 16 ans, il avait tout écrit son œuvre, ce qui est assez effarant pour un compositeur, une seule personne. Les impromptus ont été écrits à la toute fin de sa vie, moins d'un an avant sa mort. Il venait de finir d'écrire le grand cycle pour chant et piano, Le Voyage d'hiver, qui est une œuvre très sombre et très intérieure. Et tout à coup, ces 8 impromptus-là ont apparu comme un petit rayon de soleil après quelque chose de très sombre. Et je pense que c'est justement cette simplicité-là, cette beauté, cette richesse mélodique aussi. C'est des œuvres qu'on peut fredonner facilement sous la douche ou dans la rue. Et c'est justement cette beauté-là d'écriture mélodique et de simplicité après toutes ces grandes œuvres tourmentées qui nous arrivent comme un rayon de soleil. Je pense que c'est ça qui fait ces œuvres des incontournables du répertoire. Et aussi, c'est des œuvres qui sont extrêmement agréable et satisfaisante à jouer pour les pianistes.
Et pour Ronald Brettingham, lui, c'est important aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui tient beaucoup les œuvres de Schubert à cœur.
Absolument. C'est un grand défenseur de la musique de Schubert. Moi aussi, j'en suis un, je dois dire, parce qu'à la salle Bourget, depuis notre arrivée à Caroline Louis et moi, comme à la direction, comme directeur artistique et directrice générale, on a décidé de commencer à faire l'intégrale des leaders de Schubert. Donc, c'est toutes les mélodies pour voix et piano de Schubert. Il y en a plus de 600. On fait ça sur plusieurs saisons. Et autour de ce grand cycle-là, ben justement, on présente des œuvres instrumentales, des impromptus, des sonates, des quatuors à cordes, pour vraiment illustrer cette grande vision que Schubert avait de la musique, cette grande vision extrêmement vaste et extrêmement expressive de la musique. Et puis c'est vraiment un projet qu'on va faire traverser l'année 2028, qui va être le 200e anniversaire de la mort de Schubert. On va aller au-delà de ça, mais c'est vraiment un compositeur qui est à l'honneur ces années-ci à la salle Bourget.
Alors, Olivier Godin, merci beaucoup. Rendez-vous donc demain 3 mars pour ce concert. Et je rappelle donc Ronald Brettingham et va y faire résonner l'âme de Schubert sur cet instrument d'exception, le piano forte. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Thank you. Alors, je vous rappelle qu'il va faire encore froid aujourd'hui, peut-être demain aussi, là, pour ceux qui sont abonnés à ILO d'Hydro-Québec. Vous avez un défi demain matin, Charles, pour ne pas trop dépenser d'énergie. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Je remercie notre collègue Mathieu Tessier à la mise en onde aujourd'hui et Hélène Denis, qui est absente cette semaine, que je remplace, mais qui m'a aidé à la recherche. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à 17h, toujours à Canalem, pour l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup d'avoir été là et à demain.